Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Avant de démarrer notre interview, nous tenions à vous parler de Grand Bol d'Art. Grand Bol d'Art, les conférences d'architecture online qui vous aèrent la culture. Initié par le média belge agentdarchitecture.be, Grand Bol d'Art a pour but la création et la diffusion de conférences d'architecture en ligne sous un œil nouveau. Pour cette première série de conférences, il a été décidé de croiser l'architecture avec les autres arts. La première édition aura lieu le vendredi 26 février à 18h30 ou à 20h30, séance au choix, et aura pour thème architecture et gastronomie. L'architecture et les arts culinaires, deux passions, deux arts entre lesquels existent de nombreuses similitudes, alors que l'on pourrait spontanément penser qu'il s'agit de deux domaines éloignés. Cette conférence cherchera tout d'abord à montrer les points communs qui réunissent ces deux arts. Nous essaierons ensuite de comprendre comment la conception de la gastronomie a évolué parallèlement à l'architecture des lieux de restauration. Informations et inscriptions sur www.grandboldart.com/conférence-architecture-et-gastronomie. Le lien est dans la description de l'épisode. Comme d'Archi vous fait bénéficier d'une réduction, 25 euros au lieu de 30 euros, en introduisant le code promo suivant, GBA12-020. Et maintenant, pour de bon, place au talent. Chers auditeurs, enchaînons sur cette seconde partie de l'interview de Michel Raymond. Alors, vous souhaitiez aborder ce thème « dessiner l'espace plutôt que dessiner les murs », le système Beaux-Arts.
Bah, c'est un vaste sujet, donc le dire en deux mots, c'est compliqué. Mais les murs, ça m'intéresse quand on les traverse, mais ce qui m'intéresse dans les murs, c'est comment... J'ai pas envie de rendre un joli mur, moi, ça m'intéresse pas, ça. Un mur, c'est comment il fait l'espace. Comment un mur fait l'espace, c'est par les proportions, la hauteur, la largeur, la coupe. Donc on revient beaucoup à dessiner des coupes. Et dans les bâtiments que je fais, qui ne sont pas du logement, et même quand j'ai fait du logement, j'ai fait des immeubles de logement avec 3 mètres sous plafond. J'ai bougé cette hauteur réglementaire insupportable, même dans les logements sociaux. Et j'en rénove un comme ça, d'ailleurs,
bravo.
À Paris. Bah, il y a un moment, quand on veut, on peut. Bon.
Ouais.
Pas toujours, mais souvent. Et je suis retourné voir les gens, parce que je rénove 25 ans après cet immeuble, en Paris 20e, et ils l'ont vite compris, la différence. Les habitants, j'ai visité tous les apparts, ils m'ont dit « Oh, mais c'est génial, votre truc, monsieur l'architecte. Bon. » Et c'est très, très important. Et après, j'ai découvert, c'est long, le système des Beaux-Arts, c'est justement quelque chose qui, justement, on a l'impression que le système des Beaux-Arts, on n'en a retenu que le décor dégoulinant sur les murs. En fait, c'est pas ça du tout. Il y avait un très bel article traduit par Christian de Villers dans l'architecture aujourd'hui d'une expo faite à New York il y a longtemps par Christian d'Amberschul, je crois, sur le système des beaux-arts français. Donc ça n'a jamais été traduit, c'était écrit en anglais, parce que les Français, ça ne les intéresse pas, ce truc-là. Mm. Et ça raconte que l'essentiel du système des beaux-arts, c'est la marche. Le Corbusier a repris ça en appelant ça la promenade architecturale, et que les espaces sont faits par une perception en mouvement. Donc on rentre dans un espace, il y a une lumière qui vous attire sur la droite, on se tourne vers la lumière, on continue, l'espace se comprime, se dilate, Et le système des Beaux-Arts, c'est ça. Et ça, pour finir, je fais trop court, mais c'est trop... Voilà. Et ça, c'est parfaitement mis en œuvre dans le Palais Garnier de Garnier, l'opéra. Mmh. Et l'opéra, pour moi, c'est un bâtiment totalement... où il y a beaucoup de... Il y a tout le décor, mais il n'y a pas que ça. Et c'est une grande leçon d'architecture, ce bâtiment-là. En plus d'être l'œuvre d'un type complètement dévoué à son œuvre, quoi. C'est, ouais. c'est un truc très émouvant.
Je crois d'ailleurs que c'est assez unanime.
J'ai lu un article dans Le Monde qui parle, parce qu'il y a eu un film fait là-dessus récemment. Moi, j'ai pas la télé, donc c'était un film, donc j'ai lu la critique. Enfin, un documentaire. Et il parlait un peu de décors dégoulinants. Je pense qu'il n'y a pas que ça à voir.
On va plutôt dire un décor foisonnant.
Non, je ne dirais pas ça. Et je ne l'ai pas dit à propos de Le Corbusier, mais c'est Le Corbusier que tu m'as appris ça. C'est le côté sensuel de l'architecture. Mmh. Et c'était même avant ça, c'était un type qui s'appelait Bruno Kézanne, qui était prof à l'école de Grenoble, qui était un type un peu fou et qui avait écrit un livre, une brochure en disant, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiant, sa revue s'appelait L'Espace, point d'interrogation, ah bon, point d'exclamation, j'adorais ça. Et il expliquait qu'en architecture, pour faire court encore, il n'y avait pas que le regard, il y avait l'odeur. Et quand j'allais rentrer dans les églises romanes, dans le nez de Saint-Onge, la fraîcheur, l'odeur et tout ça, c'est bien sûr très important. Le son. La porte qui claque dans une église, on est tout seul, l'orgue, bien sûr. Je me suis trouvé à la cathédrale de Lens, il n'y a pas très longtemps, et tout d'un coup, l'orgue s'est déclenché à fond la caisse. Je ne m'y attendais pas, je suis assis, je suis encore à pleurer d'émotion devant ça, quoi. Et donc, dans l'opéra Garnier, il y a beaucoup de côté très sensuel, c'est très très sensuel. Mmh.
Comment arrivez-vous à inclure dans vos projets ce temps de la recherche des formes essentielles comme principe de composition ?
Ben c'est une recherche c'est un mot que j'ai mis dans ma tête il y a 2-3 mois. Ça, je me suis aperçu qu'en fait c'est à propos du stade Torpedo. J'ai fait le stade de Reims, qui était un projet d'un terrain très petit. Le stade était rectangulaire, au plus près de la pelouse, etc. Et quand on a fait le concours du stade Torpedo, qui est à Moscou, au bord de la Moscova, tout près de la place Rouge, enfin c'est un rêve pas possible de gagner un concours comme ça pour un promoteur privé, donc on va le construire. Ils sont en train de démolir le vieux. Enfin, c'est pas un projet qui va partir dans la nature. Et on le suit, et on est en visio toutes les semaines, voire 2 fois par semaine avec les gens. Il y a un architecte russe, bien entendu, mais bon. Et on a fait le dessin de ce stade en s'inspirant tout simplement de ce que c'est l'image d'un stade dans la tête de tout un chacun. Et pour moi, elle a été résumée par le... Quand vous allez au Stade de France, on vous donne un petit sac en papier avec un petit dessin dessus. C'est un ovale avec des petits traits jaunes qui représentent la lumière qui sort du milieu de cet ovale, quoi. C'est le logo, quoi, du Stade de France. Et je trouve très joli. Et ça raconte tout à fait bien. Et donc, le stade de Torpedo, on a fait un ovale. Et donc, au milieu d'un univers de... On a la chance, en plus, de construire à côté d'un bâtiment des frères Vesnine, centre culturel de Lezille, le fabricant de bagnoles qui fait faillite maintenant. On a construit dans un site vraiment incroyable. Et au bord de la Moscova, en belvédère, on voit la tour de télécommunication de j'ai oublié son nom tout de suite, de 1930. Enfin, c'est incroyable. Moscou, c'est quelque chose. En plus, ici, il est passé des choses, quoi. Et l'ovale, dans un site avec des tours, il y a 4000 logements que fait le même promoteur qui construit le stade. Il fait 4000 logements autour, des tours, des immeubles, voilà, pour classe moyenne, et un peu plus même. Et donc, le stade s'identifie immédiatement comme un objet, comme l'équipement, enfin, c'est presque comme un dessin de Sempé qui cherchait à dessiner la maison de la culture au milieu des immeubles, vous voyez. Oui. Mais d'une manière pas humoristique, là, on le fait. Et donc, je me suis dit, et j'ai redécouvert mes projets comme l'hôpital Saint-Antoine, qui est un projet, ce projet, c'est une croix. Et une croix, il faudrait prendre un crayon, j'évoque juste le sujet, mais c'est, il y a des projets où justement, je m'aperçois, et encore une fois, à propos du projet de Boréal, le projet de Lyon qu'on a gagné, où la forme sur laquelle on aboutit, quand on ne se laisse pas polluer par des décisions formelles qui n'ont rien à voir avec le projet, quand on est rigoureux dans sa pensée jusqu'au bout, on arrive à avoir la forme qui est la forme juste pour ce projet-là, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est important. Voilà. Et donc, j'ai fait des laboratoires à Grenoble. Justement, on parlait de Potier du Val-de-Grâce tout à l'heure. Potier du Val-de-Grâce, il a fait un tripode. Un tripode, c'est une forme magique pour faire un hôpital. Il y a des ascenseurs au milieu, puis il y a 3 branches. Moi, j'ai fait des bâtiments pareils à 4 branches pour faire des laboratoires à Grenoble. Mais Aujourd'hui, quand vous allez voir mon bâtiment, vous voyez un bloc parallépipédique. Or, il est composé comme un bloc en croix. Et donc, il y a un effet magique de la composition là-dedans, qui est du travail d'architecte, qui, dans une interview avec le micro, on ne peut pas raconter, il faut un crayon. Mais, et donc, les formes essentielles, c'est justement ça, cette recherche d'arriver à la forme juste, idéale, non, juste, oui, pour un programme donné, avec un usage donné, avec un budget donné, avec un coût donné, avec une fonctionnalité donnée, etc., etc., puis dans un paysage donné. Et cette recherche d'arriver à ne pas faire quelque chose de joli, c'est un mot que je hais, de facile, de déjà vu, etc., etc. Quelque chose d'inventé. Le mot inventé, c'est un mot qui a parcouru toute l'histoire de l'art dans différents sens, et qu'en architecture, il faut utiliser, que j'utilise.
Alors, vous parliez à l'instant de l'usage, et vous en avez parlé avant. Question fondamentale, et je trouve d'ailleurs que trop peu d'architectes s'intéressent à la vie de leur bâtiment post-livraison. Comment intégrer les attentes des usagers, le lean management?
L'usage, il y a plein de manières. D'abord, avant 68, il n'y avait pas de programme. Donc les architectes, je me souviens de René Dautland qui me racontait comment il avait fait les premières universités avec Edgar Faure, sur son bureau en deux jours. Il avait dit, on met tant d'amphi, tant de salles de classe, tant machin. Et René Dautland a fait des universités à Lyon comme ça. Voilà. Maintenant, on fait des programmes qui sont des fois trop compliqués, trop précis, et qui donc... ça bloque complètement l'évolutivité parce qu'on fait des bâtiments qui sont faits pour les utilisateurs d'ici et maintenant, mais pas ceux dans 10 ans. On est trop précis, quoi. Mais il y a quand même des programmes qui vont, des gens qui vont essayer de comprendre ce que veulent les utilisateurs et nous le transférer parce qu'on fait des concours dans le cadre de l'anonymat la plupart du temps, etc. Donc on ne peut pas leur parler aux utilisateurs. Par contre, quand j'ai fait une école de chimie, par exemple, où je ne comprenais rien au programme, on a parcouru la France entière pour trouver une école qui ressemblait à ça. Et rencontrer les gens qui nous expliquent, qui nous fassent visiter, parce que moi, la chimie, je connais rien. Et donc, là, on a gagné le concours. C'est la plus grosse école de chimie française à Toulouse, l'ENSIA 7, qui est un truc de folie, quoi. Tu vois, il fait 200 mètres de long par 100 mètres de large, avec toutes sortes de laboratoires là-dedans. Voilà. Et c'était pas facile de comprendre comment les choses marchaient ensemble, s'articulaient entre elles, comment les chercheurs, les étudiants, tout ça, ça marchait ensemble. Comment on s'est livré, comment on accède, tout ça, bon. Et la hauteur sous plafond pour chaque pièce, qui n'est pas la même, etc. Et donc, le programme, c'est la première chose. Donc, nous, on ne fait pas comme dans les textes que vous avez lus de Marie-Claude Richard. Moi, je refuse de commencer le moindre trait de crayon avant d'avoir lu ou que quelqu'un de mon agence ait lu le programme à fond et ait tout compris. Mmh. On ne dessine pas a priori sans avoir vraiment compris ce qu'on nous demande. Donc, ça, c'est une espèce de religion de comprendre ce qu'on nous demande. Mais c'est vrai que le programme, c'est un peu léger. Alors, j'ai deux autres expériences à mettre en face de ça. C'est l'expérience d'Air Liquide d'abord, où on a gagné ce concours privé, sans projet. Juste avec deux feuilles d'intention. C'est un projet qui sera dans votre partie anglaise. Je vous raconterai l'histoire de ce projet plus en anglais. Donc, je me suis retrouvé face à M. Olivier Delabroix et Bruno Le Prince Ringuet, qui était responsable de la recherche Monde. Donc, un mec, Olivier Delabroix, un mec à 40, 45 ans, je ne sais pas quoi, qui a une tête de rugbyman et de surfeur, un mec hyper gentil. Mais quand même une tronche, quoi, qui passe son temps à l'époque aux États-Unis, machin, dans toute la Chine, partout, pour essayer de comprendre. C'était le start-upper de Air Liquide, quoi, qui a un groupe énorme. Énorme. Ils ont, je ne sais pas combien, 70 000 salariés, un truc de folie, quoi. Mm-hmm. C'est la seule boîte où le chiffre d'affaires monte tout le temps, quoi. Ils n'ont jamais eu un problème. Bon, bref. Et en plus, ils travaillent sur les questions environnementales de développement, l'hydrogène, tout ce qu'on peut imaginer, les mobilités, et puis le médical. Mmh. Et on a fait ce projet, on a gagné, puis on s'est retrouvé au mois d'août, face à face, sur une table comme ça, avec une page blanche. J'ai dit, comment on fait ? Mmh. Et donc, moi, je leur ai dit, comment ça marche, vos labos, vos chercheurs, ils travaillent comment ? Et petit à petit, on a dessiné, je leur montrais des images, et ils me faisaient complètement confiance. C'est rare et c'est génial. Et donc, petit à petit, on a fait le projet en les écoutant, en allant voir, en comprenant, en revenant en arrière, en leur montrant des images de référence, en faisant vraiment notre travail d'architecte, et en leur montrant que leurs idées, des fois, ils nous disaient « mais faites comme tel bâtiment que j'ai vu ». On disait « non, moi, c'est pas ça que je veux, c'est l'origine, c'est pas ça ». Bref. Et on arrivait à un bâtiment qui les a surpris et qui leur plaît beaucoup. Le Jean Josas, donc le centre de R&D d'Air Liquide. Mmh. C'est un assemblage de laboratoires et de bureaux, laboratoires de recherche. Et puis l'autre projet, alors là où c'est un peu l'accomplissement de ça, c'est une chose qu'on a découvert avec Marie-Claude. Et Marie-Claude est quelqu'un d'assez sceptique et elle n'y croyait pas au début. Et maintenant, on y croit beaucoup. C'est pour faire un programme, dans un hôpital, c'est très compliqué de mobiliser tous les membres du personnel soignant. Mmh. Il y a toujours des gens qui râlent, des gens qui changent, des gens qui viennent pas au rendez-vous, après qui disent « Ah, ben, on m'a pas demandé mon avis. » Enfin, c'est très, il y a beaucoup de services, c'est très compliqué. Là, il y a une directrice, Madame Anne de Garcia, qui est une dame qui a une très forte personnalité, un très fort pouvoir de décision surtout, qui sait ce qu'elle veut, en fait, et qui a décidé une autre méthode qu'on lui avait proposée avec le directeur adjoint des HCL à l'époque, de prendre une méthode qui était le Lean Design. Alors, le Lean Design, c'est long à raconter, il faut regarder dans Internet ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui a été mis au point par les Japonais pour l'industrie automobile. C'est pour rendre plus efficaces les gestes du personnel et faire les lieux et les gestes le plus efficaces possible, à la fois pour l'ergonomie, pour gagner du temps, pas se fatiguer pour rien, etc., etc., pour optimiser le geste. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait le programme, là, pour le coup, parce que c'est pareil, ça s'est intégré dans un programme, un concours. Ils ont fait un programme, ils étaient 200 pendant 2 ans, à se réunir sans arrêt. Mais c'est toujours les mêmes, ils étaient toujours là, les 200. Hein. C'était pas question qu'ils disent qu'ils se fassent porter pas, là. Et chacun a fait son programme, mais en repensant son geste, pas en répétant ce qu'il avait déjà pour avoir la même chose. Mmh. On les a obligés à repenser leur geste quotidien, la position du local machin par rapport au local bidule, etc. Et nous, on a gagné le concours, donc avec un projet qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très amusant parce qu'il est très, très riche de forme, parce que c'est une forme essentielle. J'appelle ça, ça fait penser à Archigramme. On a dessiné le projet en 3 dimensions, et maintenant, le projet, c'est comme un moteur. Sauf que je n'ai pas eu besoin de mettre une carrosserie. Donc, c'est le moteur à nu. Mmh. C'est le moteur tout cru. Mmh. Et on a gagné à l'unanimité de partout, je suis fier de le dire. Et maintenant, qu'on fait la PS, la PD, tous les mois, on a une réunion avec 100 d'utilisateurs pour voir comment, quand on rencontre un sujet, qu'il y a une gaine qui arrive au milieu d'un local, comment on fait, est-ce qu'on leur demande leur avis. Et toutes les réunions se passent bien. Il n'y a jamais de conflit. Enfin, il y a des conflits, mais on les résout toujours dans le bien, dans le sens du projet. Et sans jamais ce foutu mot horrible de compromis. On dépense pas 50 briques, 100 briques, 200 briques pour faire un compromis, quoi, mince. C'est pas possible, on n'a pas le droit, quoi. C'est de l'argent, en plus, l'argent public, la plupart du temps. On va pas dépenser beaucoup de millions pour faire un compromis. C'est ridicule. Donc, les gens qui disent, oui, l'architecture, c'est un compromis, ça m'en fout. C'est pas possible de dire ça, je pense. Voilà.
Pour vous, la question essentielle est le doute?
Oui, bah le doute, c'est parce que c'est peut-être ma personnalité aussi. Hein. Mais je pense que c'est ce qui me permet de rebondir sur le projet suivant en me disant là, j'ai réussi là et j'ai raté là. J'étais très fier parce que j'ai fait visiter un jour mon bâtiment d'arts et métiers de Metz à Frédéric Edelman, pour le coup, un grand critique d'architecture. Mmh. J'ai eu droit à une demi-page dans Le Monde. Et c'est ça qu'il a relevé chez moi, que j'étais pas content de tout quand je lui faisais visiter mon bâtiment. Et c'est vrai que bon, c'est ma personnalité, il faut peut-être que j'aille voir un psy, mais bon. Et en même temps, c'est ce qui me permet de rebondir, et c'est ce qui me permet de dire que oui, quand je commence un projet, je me dis, mais je ne vais pas y arriver, quoi. Toujours. Donc il faut se challenger, il faut se booster. Et je n'aime pas les architectes qui racontent en disant qu'ils sont inspirés, qu'ils ont pris leur crayon, qu'ils sont allés dans leur bergerie, je ne vais pas dire à quoi je pense, mais peut-être que vous voyez, dans une bergerie, et qu'il a pensé, inspiré, et qu'il a fait son dessin, après qu'il a donné ses croquis à ses gratteurs dans l'agence, et qu'on mis ça en musique avec des cotes et des tuyaux et des poteaux. Je trouve que ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. On travaille en épuisant les mauvaises solutions. On dessine, on se vide de toutes les mauvaises solutions qu'on a en soi, et petit à petit, si on travaille bien, si on a un peu de chance aussi, ça va plus ou moins vite, on arrive à la bonne solution parce que c'est la seule qui reste. Après avoir épuisé les mauvaises solutions, c'est pénible, parce qu'on a l'impression d'être pas bon, mais quand on a réussi et que ça marche à la fin, on a l'impression d'être bon, donc ça valait le coup. Et je pense que c'est un résumé, voilà, mais c'est la manière pour moi, je pense, que la création se passe. Et je pense que j'ai entendu des peintres dire la même chose, des sculpteurs dire la même chose. Un sculpteur, c'est plus difficile parce qu'il ne faut pas se rater. Mais dans la création, je pense que c'est un moyen normal de créer ça. Je crois que c'est Truffaut qui disait la même chose.
Marie-Claude Richard dit aussi de vous, dans le travail de conception du projet, je remarque qu'il s'appuie d'abord sur les aspects concrets, la pratique, la fonctionnalité, le mode d'occupation et les usages des futurs utilisateurs. Et le site, le terrain, sa topographie, sa nature. Fin de citation. Une approche fonctionnelle donc, un long processus de gestation pour qu'un projet qui fasse sens puisse émerger pleinement. Est-ce qu'au sein de votre production, un projet a su incarner pleinement cette approche qui vous caractérise?
Tous un peu, mais il y en a un dont je n'ai pas parlé, là, qui est tout petit, que j'aime beaucoup, qui est une base de loisirs à Torcy. Au bord d'une plage, c'est un petit ponton qu'on a fait avec Jacques Coulon pour Café le Paysage, qu'un paysagiste qui sait ce qu'il veut. En fait, le bâtiment, là où il est le plus beau, c'est quand on ne le voit pas, quand on l'a dans le dos. Mmh. Il est très beau, hein, par ailleurs. Mais parce que le bâtiment fabrique un point de vue sur le paysage. Et j'ai la même chose dans mon immeuble de Villeneuve-Saint-Georges, qui est en hauteur, où le hall d'entrée est à 15 mètres de haut. Le site, c'est comme ça, on n'avait pas le choix. Et là, grâce au bâtiment, on a une vue sur la banlieue plein sud, inimaginable, quoi. On voit les avions d'Orly décoller, les péniches passer, un Buffalo Grill, des camions qui passent, la National 6. On voit un
panorama sur la
banlieue. Ce que c'est la banlieue, on fait une photo, on a tout compris, quoi. Alors la nuit, c'est encore mieux. C'est à l'ouest, donc le soleil couchant là-dessus, c'est incroyable. Et donc le bâtiment le sert à... c'est une phrase que je ne vais pas raconter, c'est un peu long, mais il faut lire la page, je ne sais plus combien, de Malaparte, dans la peau de Malaparte, quand Malaparte fait visiter sa maison au général Rommel, où il explique que lui, il n'a pas dessiné la maison, il a dessiné le paysage autour. Mmh. Et moi, j'aimerais bien faire ça, voilà, pour moi, c'est... voilà. Mmh.
C'est vrai que c'est deux références. Voilà. Comment est composée votre équipe ?
Bah, mon équipe, c'est... On fait presque plus de logements, on n'en fait plus. On fait que des bâtiments très compliqués. Donc, mon équipe, elle est obligatoirement composée de gens qui sont ce qu'on appelle en CDI, quoi. Donc, assez vite, j'ai compris que pour avoir une agence, il ne fallait pas mégoter. Il fallait avoir des moyens... je me suis transformé en chef d'entreprise, ce que je ne suis pas du tout. Dans ma famille, il n'y avait personne comme ça. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire au début, mais je me suis obligé à le devenir. À être sérieux, avoir des outils assez chers qu'il faut payer, avoir un local qui accueille bien les gens, donc c'est assez cher aussi, grand, les derniers logiciels, pas craqués à l'époque, maintenant plus personne n'a de logiciels craqués, mais à l'époque, bon, les outils les plus pointus, on est en train de se renseigner pour avoir des outils sur le big data, pour gérer des projets avec beaucoup de complications, et donc ça suppose que les gens soient là en permanence. Donc c'est pas des gens qu'on prend en place de grève et qu'on relâche 3 mois après, ou même 18 mois après, avec des CDD longs, comme on voit souvent dans les CV. Donc, ça oblige à avoir une équipe qui est... Donc, c'est compliqué de gérer des plans de charge irréguliers. Mais c'est ça ou rien, quoi. Parce que sinon, on ne peut pas avoir... Les réglementations auxquelles on est confrontés sont de plus en plus compliquées. C'est comme ça, c'est la vie, on ne va pas se plaindre. Mais il faut avoir des gens qui sont là, attachés, et qui ont une formation. On a la certification ISO 9001, ce qui n'est pas rien. Par rapport au discours plus créatif que j'avais tout à l'heure, c'est le pendant opposé, mais c'est nécessaire. Oui. Les deux sont complémentaires. Et ISO 9001, ça veut dire que toutes nos méthodes, on y réfléchit ensemble, on se réunit régulièrement pour avoir des méthodes de travail communes, de classement des dossiers, l'outil informatique devient vraiment très très compliqué. Quand on était à la main, c'était un truc. Quand on était AutoCAD, c'était de la main évoluée. Maintenant qu'on est passé à l'outil Revit, c'est un outil qui est une marche en avant. C'est la folie, ça change. Tout le temps, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Mais si on rate la marche, on est fichu, quoi. Et tout le temps, moi je m'aperçois qu'ils font de plus en plus de réunions, les gens à l'agence, mais ils travaillent de moins en moins. C'est-à-dire que ça va tellement vite, cet outil, ça permet de gagner tellement de temps, mais il faut savoir s'en servir super bien.
Oui, et puis
donc des formations tout le temps.
Oui, c'est tout le temps en évolution constante. Ça.
Voilà, et tout le temps des formations, et puis il y a des astuces, et puis ils se refilent des combines. Enfin, il y a d'autres agences comme ça, hein, mais surtout sur l'hospitalier, il y a des agences qui travaillent sur l'hospitalier, ils sont obligés de travailler à ce niveau-là. Mais c'est une question, c'est vrai qu'on c'est pas très souple comme vie d'entreprise par rapport aux plans de charge qui sont un peu en décroissance. Comme des fois en ce moment, ça pourrait être. Alors, mais on fait avec.
Ouais. Marie-Claude Richard conclut son texte en soulignant « Au geste architectural emphatique, nous préférons une démarche plus ouverte et plus subtile. C'est dans ce partage des plaisirs et des émotions que se trouve la clé de notre travail. » Alors, vous avez une personnalité forte. Les auditeurs, je pense, l'auront compris à vous entendre, à vous écouter. Et votre nom signe vraiment vos conceptions. Comment votre équipe trouve sa place et comment s'opère la transmission entre générations ? Et pensez-vous à la relève ?
Oui, oui. Bah, les projets se font avec un chef de projet. Je ne fais jamais un projet tout seul. Et il y a toujours on est en binôme comme ça avec un chef de projet, soit Marie-Claude et moi, soit Cyril Doy et moi, soit Florence Desnaux et moi, soit des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont bien intégré la manière de travailler, soit Alexis Payère, j'en parlerai après, et moi. Et ils lisent le programme et moi je travaille et on se fait des rendez-vous réguliers et... Eux, ils sont jusqu'au cou dans le programme. Moi, je suis plus de temps en temps. Et ensemble, on se challenge comme ça. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et le projet, c'est vraiment un travail collectif, quoi. Il y a un moment, c'est moi qui tranche, oui. Mais des fois, ils m'apportent des idées. Quand c'est Marie-Claude qui me dit « Non, ton idée, elle va pas du tout. C'est pas bien. J'ai pas intérêt à aller contre, quoi. C'est pas comme ça, ça se marche. » Parce qu'elle a une rigueur intellectuelle que je respecte tellement que quand elle dit que ça va pas, j'écoute, quoi. Et je réfléchis pourquoi. Donc on s'écoute.
Et vous commencez à gratter sur le calque quand vous commencez à
Ah non, il n'y a pas de calque. Moi, je fais des croquis, il n'y a plus de calque. Enfin, si, moi, j'ai des petits bouts de calque quand je fais sur des impressions comme ça. Je ne sais malheureusement pas travailler à l'ordinateur le dessin, c'est trop compliqué. Mais on imprime des choses avec une obligation d'imprimer à l'échelle, parce que sinon, le problème de l'ordinateur, c'est un énorme problème. Ça, on perd le contact avec le corps, quoi. L'échelle, c'est le rapport au corps, en fait. Voilà. Donc, on imprime quelqu'un qui n'imprime pas au 200e, au 500e, voilà, il se fait prodigieusement engueuler, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, après, on travaille ensemble au calque, sur des croquis, des choses comme ça, bien sûr, bien entendu.
D'accord,
et puis, la relève, bah, Alexis Payère, il est arrivé à l'agence il y a une dizaine d'années, je ne sais plus, plus, je ne sais plus. Et il est associé depuis 4 ou 5 ans. Et il a 40 ans. Il avait envie d'être associé. Et ben, c'est lui qui s'occupait de tous les projets à l'étranger, en particulier. Il s'est cogné les contrats, les machins. Moi, j'y vais avec lui, mais c'est lui qui était l'origine des projets, enfin, l'origine dès le début du projet. Et ben, petit à petit, il prend des parts de ma société. Petit à petit, il grandit. Mais enfin, c'est pas, il n'aura pas 100% demain, parce que je n'ai pas envie d'arrêter demain. Mais je veux dire, c'est important que l'agence apparaisse avec de la continuité, avec de l'avenir. Parce que c'est vrai, quand un maître d'ouvrage voit un bonhomme comme moi qui a 71 ans, il dit, bah, celui-là, il prend sa retraite demain. Non, je ne peux pas lui dire que ce n'est pas vrai, mais il peut l'imaginer. Et je n'ai pas envie que mon entreprise et les projets qu'on a se rétrécissent, se rétractent, parce qu'on ne me ferait plus confiance. Donc, avec Alexis, je pense que les maîtres d'ouvrage nous font confiance et la vie de l'entreprise, elle va légèrement changer, elle va évoluer, le monde change, c'est normal. La vie de l'entreprise est prolongée, continuée. C'est aussi un respect pour tous les gens qui sont dans l'agence en ce moment, qui voient qu'ils sont là avec un avenir. C'est tout un tas de choses comme ça. Enfin, c'est dit de manière très, très rapide. J'ai peur de le dire de manière trop brutale, mais voilà, c'est ça. Non, non, l'avenir, c'est important.
Et l'effectif, c'est moyen. Parce qu'en ce moment, c'est
On a été le maximum, et notre local le permet. On a été 38. Là, en ce moment, on est 20, 23, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'avec l'informatique, à chaque fois, même quand on essayait à la main, il fallait plus de gens pour faire un... Donc, mais quand même, à 22, on a moins de travail que quand on était 30, 35, 36, 37.
Enfin, on sait que les agences, c'est un peu... On gonfle, on
dégonfle. Pas trop, je trouve que c'est pas très bien, ça. Mais bon, en même temps, on a pris le principe, ça fait un renouvellement. Il y a des jeunes qui sont arrivés, des jeunes qui sont aussi d'une efficacité redoutable. Et c'est pas mal d'avoir un peu d'air frais aussi, quoi.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Ça, j'ai plein de conseils. J'ai été prof d'archi plusieurs fois. J'étais prof à l'école spéciale 4-5 ans, il y a très longtemps. Puis j'étais prof en 95 à 99, de projet à l'école de Versailles. Et ça, c'est très difficile et c'est très compliqué parce que les étudiants, il faut beaucoup les secouer. Mais ils ne demandent que ça souvent. Parce qu'ils demandent qu'on les aide à les faire se révéler à eux-mêmes. C'est délicat parce que c'est des gens jeunes. Des fois, on peut leur faire du mal. C'est très compliqué, mais il est hors de question de leur apprendre un style ou un truc comme ça. Il faut leur apprendre à se révéler eux-mêmes. Donc voilà. Pour quelqu'un qui a une architecture un peu déterminée, on peut comprendre que quand je suis prof, j'apprends ce que je fais, qu'il faut qu'il fasse pareil, mais c'est bien sûr pas ça, quoi. Non, un étudiant, moi je dirais, il faut qu'il apprenne à regarder, qu'il voyage, qu'il apprenne la géographie, qu'il apprenne l'histoire de l'architecture, et pas seulement... Moi, quand je parlais d'histoire de l'architecture avec mes étudiants, quand j'en avais, à l'époque, je leur disais, je veux pas entendre parler de choses qui ont moins de 50 ans. Je veux des choses plus anciennes, parce que c'est hors du débat récent, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'avais envie, quand j'étais à Versailles, je leur demandais tous, mais vous avez été visiter la cathédrale de Versailles ? Aucun l'avait visité. Je dis, bon, on arrête le cours, vous y allez, puis on revient, puis on en reparle, quoi. Le Versailles est magnifique, en plus, en face, le jardin de l'école du paysage, justement. Et c'est une œuvre classique, sublime. Et donc, on y voit la lumière, on y voit les espaces qui se contractent, on y voit tout, quoi. Comme on le voit à Saint-Sulpice, comme on le voit dans toutes les églises romaines, etc. Ça, comme on le voit partout, quoi, dans les belles églises, comme on le voit dans une petite église que j'aime beaucoup, qui n'est pas loin de chez moi, qui est l'église de François Mansart, rue Saint-Antoine. Qui est protestante maintenant, mais qui a un bijou total.
Oui, je vois très bien. Voilà. Je l'avais photographié.
Et donc, je leur dis aux étudiants, allez voir ça, et surtout, ne vous cantonnez pas à l'architecture moderne. Il n'y a pas que les grands architectes contemporains qui sont... et l'Internet qui les bassine avec toutes ces folies qu'on fait en Chine ou qui n'ont pas de prix.
Ah oui.
Et ça, c'est déraisonnable.
Je suis entièrement d'accord.
La Chine fait ce qu'elle veut, mais pour nous, ça ressemble à rien, quoi.
Alors pour conclure, je souhaitais vous demander de manière un peu insolite comment vont votre lampadaire et votre île. Et un mot de la fin.
Mon lampadaire, oui, c'est drôle comme question. C'est parce que je m'amuse. J'ai la chance d'habiter un endroit assez extraordinaire. Je me suis donné cette chance pour le moment. J'espère que je vais y rester. J'habite au bord de la Seine et je vois la Seine du troisième étage de ma fenêtre.
Ouais, pour que nos auditeurs comprennent, en fait, vous publiez un petit peu sur Instagram et donc il y a une histoire de votre lampadaire.
Bah, ça a commencé. J'ai quatre fenêtres en ligne. Il y a la fenêtre de la chambre, qui est la plus à droite, où on voit un lampadaire avec un escalier qui descend sur le quai. Et je me suis amusé pendant le confinement. J'avais commencé avant, mais pendant le confinement, je l'ai fait tous les jours. À faire une photo cadrée exactement de la même façon, avec mon iPhone de tenue sur la balustrade, donc c'est à peu près cadré tous les jours de la même façon, pas à la même heure, et de voir toutes les lumières possibles et imaginables qu'il peut y avoir, mais c'est, on n'y croit pas, quoi. Aujourd'hui, l'hiver, c'est un peu plus... J'en ai fait une ce matin, mais c'est moins... S'il y avait de petites gamines avec des cartables roses qui passaient devant, c'était très amusant. Et l'eau qui tourbillonne, comme dans la Seine, il y a les marins-pompiers qui s'entraînent en scaphandre. Il y a des fois des zodiacs qui passent à 60 à l'heure, zoom comme ça. Alors quand j'arrive à les photographier, je suis content parce que je vois un zodiac qui passe, ça remplit tout. Il y a des fois des cormorans qui s'envolent. Enfin, j'habite la nature en ville, si on veut dire.
Ouais. L'épave du vélo aussi.
L'épave du vélo qui était, quand la Seine baissait beaucoup l'été, il y a un vélo rouge qu'on voyait apparaître et qui disparaissait quand la Seine remonte. La Seine monte énormément. Oui, la Seine, c'est un truc de folie, quoi, de voir un morceau parce que la Seine, ça part de. D'une source d'un côté, ça va à la mer de l'autre. On est en plein dans un morceau de géographie. J'ai la chance d'habiter dans un morceau de géographie.
Et l'île, alors ?
Bah, oui. L'île, j'habite sur une île et je vais en vacances dans une autre. Donc c'est... Mais c'est tout, c'est un hasard comme ça. Oui. Mais la photo, c'est une photo par ma fenêtre. Oui. Et donc, ça renvoie à un film, une photo d'un film qui est « Fenêtre sur cour » de Hitchcock, où tout un film est de ce qu'on voit par la fenêtre et dans un cadrage où on voit la cour. Mais la cour est ouverte par une échancrure où on voit la rue. Mmh. Donc, ce n'est pas une cour qui est fermée sur elle-même avec les piapiatements de concierges et de poubelles qu'on rentre et qu'on sort. C'est une cour où il y a la rue aussi qui est présente. Donc, c'est une cour très complexe. Le système, il ne peut pas bouger par sa jambe en plâtre. Et il imagine, et toute cette vision de par la fenêtre, donc moi, j'utilise le hashtag « by my window », par ma fenêtre, fenêtre sur cour. Il y a fenêtre sur cour tout court, il y a fenêtre sur cour officielle, il y a tout un tas de trucs. Pour avoir le plus de gens. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas du tout qui s'intéressent à ma fenêtre et à mon lampadaire maintenant. Et il y a toute une vie incroyable quand on s'est regardé.
C'est ce qui ressort.
Et quand je parle à des gens comme ça, je dis, mais qu'est-ce que tu vois par ta fenêtre? Et les gens, ils ne savent pas regarder par leur fenêtre souvent. Et parce qu'on peut regarder en haut, en bas, en face, à droite, à gauche. Il y a plein de manières de regarder par sa fenêtre. Mais tout est intéressant. Mais je reviens à ce que je disais aux étudiants, regardez, 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 apprenez à regarder, éduquez votre regard, parce qu'on peut regarder le Parthénon, on peut regarder Saint-Sulpice, on peut regarder tout, une ferme dans le Berry, on peut regarder n'importe quoi, un hangar, voilà. Le regard, c'est l'outil principal, mais il faut qu'il soit très éduqué, chacun fait sa propre éducation, mais on peut l'aider quand on est professeur, on peut là en ce moment peut-être que j'aide des gens en parlant, mais je suis surpris que beaucoup de gens, quand j'en parle, mais on passe à la place de la Bastille, j'ai montré à des gens qui passent toujours, mais t'as vu ça ? Cet angle-là de deux immeubles qui sont coupés sur la bisectrice, il y a un angle là, au début de la rue de la Roquette, qui est un angle incroyable, je l'ai montré à des gens, ils m'ont dit, mais j'avais jamais vu ça, moi, j'ai vu que ça le premier jour, quoi. Bien sûr, il y a ce gros bazar de l'opéra, mais il n'y a pas que ça.
Alors, un mot de la fin, peut-être, sur vos 1001 projets dont vous parliez au début. Vous êtes aussi membre de l'Académie d'architecture.
Oui, j'ai chance là. Non, je suis avide d'avoir des nouveaux projets et c'est juste. Comment dire ? C'est vrai que. Je vais aller à l'inauguration d'un bâtiment au Mans qu'on a fait là, vendredi. Et moi, je vais sur les chantiers. Toutes les semaines, parce que j'ai des gens qui habitent sur place, deux personnes de l'agence qui ont déménagé quasiment toute la semaine pour suivre ce chantier pendant un an et demi, Jean-Paul et Jessica. Donc, ils font ça le boulot très très bien, ils me racontent, et moi j'y vais une fois tous les deux mois, un truc comme ça. Et donc là, c'était les OPR, j'y suis pas allé depuis 4-5 mois, le paysage n'était pas fait, le TN+. Et donc, je vais y aller et je vais découvrir que le bâtiment est juste ou non. Je pense qu'il est juste. D'abord, j'ai une énorme responsabilité parce qu'on m'a confié les clés du camion quand même pour transformer le paysage d'un hôpital qui est une espèce de capharnaüm total. Et je fais deux bâtiments devant qui font le premier plan qui met en second plan tout le bazar qui avait été fait avant par des financements XY dans l'histoire de l'hôpital, et je fais un ordre, je fais le hall d'entrée, je fais tout ça, je fais un jardin d'accueil, tout ça. Je réutilise une petite chapelle qui est là, 19e, qui en soi n'est pas passionnante, mais mise dans une composition d'ensemble, ça fait un lieu, quoi. Et en arrivant, je pense que je vais avoir un très très grand plaisir de découvrir que je ne me suis pas trompé, j'espère. C'est ça le but du jeu, en fait. Et donc, j'aurais donné à des patients, comme j'ai donné à Villeneuve-Saint-Georges, les gens me l'ont dit, que quand ils arrivent là avec de l'angoisse, quand on va à l'hôpital, en général, soit on a de l'angoisse parce que pour un parent qu'on va voir, soit pour soi-même, on se pose la question, on ne va pas à l'hôpital pour se marrer, quoi. On a envie d'être aimé, pris en charge, de la douceur, puis de la netteté aussi. Il y a les personnels soignants d'abord, bien sûr, et moi un petit peu. Donc si je peux faire ça, je suis content. Donc des fois, on dit que j'aime bien être architecte citoyen. C'est oui, c'est ça, oui. Voilà, ça peut être ça, le mot de la fin.
Bon, en tout cas, vous êtes un architecte plein de richesses. Vous avez 71 ans, vous êtes Instagrammeur. On vous sent plein de vitalité et je trouve ça très beau.
C'est gentil.
Et je pense qu'on a une vision un peu terrible aujourd'hui de quand on devient un petit peu plus âgé, on est assez vite, enfin je trouve en tout cas, mis en marge ou on se met vite en marge soi-même. Hein, et bravo pour cette...
Non, la marge, là, c'est pas bien.
Ouais, voilà.
La marche, c'est la mort.
Bah,
j'ai pas envie, moi, ça m'intéresse pas.
vous incarnez vraiment votre métier, en tout cas.
Bah, c'est gentil, bah, c'est ce qu'il faut faire. Bah, c'est vrai que j'ai regretté de ne pas être plus longtemps enseignant. C'est compliqué, l'enseignement, et je comprends pas bien en France ce qui se passe là-dessus, mais bon, c'est compliqué, l'enseignement, oui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir permis de dire tout ça, de m'avoir posé des questions... très juste, très surprenante même. Mais bon, c'est le jeu, c'est la surprise, c'est ce qui fait, j'espère, des réponses intéressantes. J'espère que j'ai réussi.
Mais bien sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir.
Au revoir, merci.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchi podcast, comdarchi podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.